La gauche et les indépendants, chronique d'une méfiance au XXe siècle. Le monde évoqué par Siegfried est cependant sur le point de disparaître au moment où il le décrit. En bon républicain du centre-gauche, Siegfried s'inquiète des timides percées que font les collectivistes dans les régions de l'Ouest, en particulier auprès des ouvriers des arsenaux de Brest et des sardiniers de Concarneau. Mais ailleurs dans le pays, les candidats socialistes font des progrès autrement plus décisifs. Au cours de l'entre-deux-guerres, les députés socialistes et communistes, nouvellement séparés après la scission du Congrès de Tours en 1920, prennent progressivement l'ascendant sur les radicaux et les repoussent vers le centre. Ils les détrônent définitivement après le Second Conflit mondial. Or, l'idéologie des socialo-communistes vis-à-vis de la propriété privée est autrement plus subversive que celle des radicaux et des républicains du centre-gauche. Alors que les radicaux sont les apôtres des petits propriétaires, paysans, commerçants et indépendants de toute nature, et de la réforme sociale dans le respect de la propriété privée, notamment au travers de l'impôt sur le revenu porté par Caillaux, les socialistes et les communistes prônent la collectivisation des moyens de production, notamment dans le secteur industriel, et s'appuieront d'ailleurs jusqu'aux années 1980 sur des plateformes programmatiques fondées sur les nationalisations. Ils tenteront certes de convaincre tout au long du XXe siècle les petits indépendants qu'ils ne leur veulent pas de mal et que les propriétés privées d'ampleur raisonnable n'ont rien à craindre. Mais, faute d'un programme précis permettant de fixer à ce sujet des limites et des bornes parfaitement rassurantes, les indépendants continueront pratiquement jusqu'à nos jours de se méfier de la gauche socialiste et communiste. Cette méfiance des petits indépendants, paysans, commerçants, artisans, explique d'ailleurs pour une large part le profil relativement plat du vote à gauche, en fonction du revenu observé en France parmi les 90% des revenus les moins élevés. Des années 1950 jusqu'aux années 1970-1980, les bas déciles de revenus sont en effet constitués pour une part importante de travailleurs indépendants, qui ne sont certes pas très riches en termes de revenus, mais qui néanmoins possèdent un peu de patrimoine, un champ, une ferme, une échoppe, et se méfient plus que tout au monde des projets des collectivistes. Le poids des indépendants et notamment des paysans explique d'ailleurs le profil particulièrement plat du vote à gauche en fonction du revenu en France au cours de la période 1950-1980, alors que ce même profil a toujours été nettement plus décroissant parmi les 90% des revenus les moins élevés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces craintes vis-à-vis des partis de gauche peuvent faire sourire. Les socialo-communistes en France n'ont jamais eu ni le pouvoir ni l'intention de transformer l'agriculture et le commerce en Kolkhoz, Sovkhoz et autres magasins gastronomes, du nom de la chaîne d'État de magasins alimentaires fort peu gastronomiques qui disposait du monopole sur cette activité à l'époque soviétique. Mais ils n'ont jamais eu l'occasion non plus d'indiquer de façon claire et précise quelles étaient leurs intentions à long terme à l'égard de la petite propriété privée et comment ils concevaient le rôle de cette dernière dans la société idéale qu'ils envisageaient. Cette ambiguïté et ces incertitudes sur la question de la propriété sont tout sauf secondaires. Elles sont à l'origine de schismes majeurs entre socialistes et communistes, et entre les socialo-communistes et le reste de la société, à commencer par les indépendants. Elles expliquent pour une large part l'incapacité du SPD et du KPD de s'allier en Allemagne face aux nationaux-socialistes dans les années 1930 et des radicaux socialistes et communistes de constituer des coalitions durables en France dans l'entre-deux-guerres, en dehors de l'important mais éphémère épisode du Front populaire en 1936-1938. Ce conflit lourd autour du régime de propriété et du soutien au modèle soviétique, ainsi qu'au sujet du colonialisme, explique aussi en grande partie pourquoi les socialistes gouvernent souvent avec les radicaux et le centre-droit entre 1947 et 1958, dans le cadre des coalitions dites de troisième force, ce qui revenait à gouverner au centre en excluant à la fois les communistes et les gaullistes. On notera toutefois que la brève présence commune au gouvernement et à l'Assemblée des socialistes et des communistes en 1945-1946 eut un impact décisif sur la mise en place de la sécurité sociale et sur la suppression du veto sénatorial dans la constitution de la IVe République, veto qui avait bloqué de nombreuses réformes fiscales et sociales sous la IIIe République. Les députés communistes jouèrent également un rôle central pour renforcer la progressivité réelle de l'impôt sur le revenu avec la suppression de la déduction de l'impôt de l'année précédente. Au-delà de la crainte existentielle portant sur une possible expropriation de la petite propriété privée, il faut souligner que les partis de gauche ont fortement contribué à attiser les méfiances et les conflits, notamment autour des débats concernant la fiscalité et tout particulièrement l'impôt sur le revenu, en défendant des positions beaucoup plus favorables aux salariés qu'aux indépendants. Rappelons que le système d'impôt sur le revenu, adopté en 1914-1917, comportait d'une part un impôt général sur le revenu, portant sur le revenu global, c'est-à-dire la somme de tous les revenus du contribuable, et d'autre part des impôts cédulaires pesant séparément sur chaque catégorie de revenus, salaire, revenus des indépendants, profits, intérêts, etc. Or, l'impôt cédulaire, concernant les salariés, était beaucoup plus favorable que celui touchant les indépendants. Alors que les premiers bénéficiaient d'importants abattements, de telle sorte que seuls les 10-15% des salariés les mieux rémunérés payaient cet impôt, les indépendants étaient censés payer l'impôt cédulaire dès le premier franc de revenu, qui devait être déclaré avec soin. Face à une injustice aussi flagrante, les petits indépendants, paysans, artisans, commerçants, se mobilisèrent avec énergie et obtinrent un certain nombre de régimes dérogatoires et de mesures compensatoires dans les années 1920 et 1930. Mais les salariés, défendus notamment par les partis socialistes et communistes, qui refusaient l'idée d'un alignement pur et simple sur le régime des indépendants, car cela aurait impliqué des hausses fiscales inacceptables à leurs yeux pour les petits et moyens salaires, conservèrent un traitement nettement privilégié. Cette situation se prolongea après le Second Conflit mondial. Les réformes fiscales de 1948 et 1959 étaient supposées unifier le système avec des règles communes pour tous les revenus. Mais en réalité, des abattements spéciaux furent institués pour les seuls salariés, qui bénéficiaient en outre d'une exonération de la taxe proportionnelle. Cette question fut d'ailleurs, dans une large mesure, à l'origine d'un violent mouvement de protestation anti-impôt et de défense des petits indépendants qui conduisit à la percée poujadiste lors des législatives de 1956. Du point de vue des socialistes et des communistes, les avantages dont bénéficiaient les salariés se justifiaient en raison de la fâcheuse tendance qu'avaient les indépendants à sous-déclarer leurs revenus, alors que les titulaires de salaire n'avaient pas une telle possibilité. L'argument peut se comprendre, et en même temps il est clairement voué à l'échec. Ce n'est pas en instaurant un abattement spécial visant à compenser les salariés de la fraude supposée des indépendants que l'on va mettre fin à cette dernière, et plus généralement que l'on va parvenir à développer des normes de justice fiscale acceptables par les différents groupes. Ces discussions d'apparence technique ont joué un rôle central dans la structuration des clivages électoraux entre salariés et indépendants au cours du XXe siècle. Les antagonismes fiscaux entre monde rural et urbain étaient également très présents dans les processus d'identification politique à l'œuvre au XIXe siècle. Ces conflits montrent à quel point la question de la justice fiscale et sociale ne peut être traitée de façon abstraite, indépendamment de son incarnation institutionnelle et administrative. L'impôt juste doit être construit historiquement et politiquement en fonction des dispositifs que l'on se donne pour comparer les capacités des uns et des autres à contribuer aux charges communes, et notamment pour mesurer et enregistrer le revenu et la propriété de catégories sociales par ailleurs très différentes, voire totalement incomparables, sur le plan de leur statut et de leur activité économique. Force et fragilité de la gauche brahmane et de la droite marchande. Avec la fin du communisme soviétique et des affrontements bipolaires autour de la propriété privée, et avec la montée en puissance de l'expansion éducative et de la gauche brahmane, le paysage politico-idéologique s'est totalement transformé. Le programme des partis de gauche à base de nationalisation, notamment en France et au Royaume-Uni, qui effrayait tant les indépendants, a disparu en quelques années sans pour autant être remplacé par un programme alternatif clairement assumé. Le système d'élites multiples s'est mis en place avec d'un côté une gauche brahmane, attirant les suffrages des plus hauts diplômés, et de l'autre une droite marchande, toujours en tête parmi les plus hauts revenus et patrimoines. nous retrouverons cette même structure aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les autres pays occidentaux. Cet équilibre a ses éléments de force, mais il est aussi et surtout traversé par des lignes de fragilité qui le rendent extrêmement instable. Les éléments de force tiennent au fait que la gauche brahmane et la droite marchande incarnent toutes deux des valeurs et des expériences complémentaires. Elles partagent aussi de nombreux éléments communs, à commencer par un certain conservatisme face au régime inégalitaire en place. La gauche brahmane croit dans l'effort et le mérite scolaire. La droite marchande insiste sur l'effort et le mérite dans les affaires. La gauche brahmane vise à l'accumulation de diplômes, de connaissances et de capital humain. La droite marchande s'appuie surtout sur l'accumulation de capital monétaire et financier. Elles peuvent avoir des différences sur certains points. La gauche brahmane peut vouloir un peu plus d'impôts que la droite marchande, par exemple pour financer les lycées, les grandes écoles et les institutions culturelles et artistiques auxquelles elle est attachée. Mais les deux camps partagent un attachement fort au système économique actuel et à la mondialisation telle qu'elle est présentement organisée et qui, au fond, bénéficie assez bien aux élites intellectuelles comme aux élites économiques et financières. La gauche brahmane et la droite marchande incarne deux formes de légitimité à gouverner. Ce système d'élites multiples représente d'ailleurs une sorte de retour à la logique profonde des sociétés trifonctionnelles anciennes, fondées sur un partage des rôles entre élites intellectuelles et élites guerrières, à la différence près que ces dernières ont été remplacées par les élites marchandes, compte tenu du fait que la sécurité des biens et des personnes est désormais assurée par l'État centralisé. Gauche brahmane et droite marchande peuvent alterner au pouvoir ou bien gouverner ensemble dans le cadre d'une coalition regroupant les différentes élites. La tentative de constitution d'une alliance regroupant le centre-gauche et le centre-droit en France aux élections de 2017, sur laquelle nous reviendrons plus loin, relève du second cas de figure. Dans la mesure où les plus diplômés finiront par devenir les plus riches, on peut aussi penser que la fusion socio-économique des élites sera telle que l'hypothèse d'un parti politique unique deviendra la plus logique. En Inde, à la fin du XIXe siècle, nous avons vu que les brahmanes étaient à la fois les plus grands lettrés et les plus grands propriétaires. Les différents choix de carrière, par exemple dans le secteur public ou les métiers culturels et intellectuels pour les uns, et le secteur privé et les métiers financiers et marchands pour les autres, laisse cependant ouverte la possibilité que les deux élites ne fusionnent jamais complètement. Malgré ces forces évidentes, cet équilibre politique n'en est pas moins extrêmement précaire. Le premier symptôme, déjà évoqué, est le phénomène de retrait électoral des catégories populaires. Une lecture cynique consisterait pour les élites à y voir leur assurance vie. Moins les classes populaires participeront aux élections, plus les classes élevées pourront se maintenir au pouvoir. Le risque est cependant que cela mine à terme la légitimité même du régime électoral et politique, ouvrant la voie à des révolutions violentes et des pouvoirs autoritaires. Plus généralement, il est clair que c'est l'ensemble du système de clivage politique et de coalition électorale de l'après-guerre qui est menacé d'effondrement. Ce qui reste de la gauche électorale est traversé par des fractures de plus en plus vives entre un centre-gauche pro-marché et une gauche pro-redistribution plus radicale, à la recherche de nouvelles réponses face à la montée des inégalités. Nous reviendrons plus loin sur les formes de socialisme participatif et de social-fédéralisme en cours de développement et susceptibles de répondre à ces attentes et à ces défis. La droite électorale est également écartelée entre un centre-droit pro-marché et une droite nativiste et nationaliste qui voit dans le repli identitaire et le social-nativisme anti-immigré la solution aux défis posés par les dérives du système économique mondial. Ce sont ces nouveaux clivages identitaires que nous allons maintenant étudier, ce qui nous amènera à la division de l'électorat en quatre quarts, observée lors des élections de 2017. Du retour des clivages identitaires et religieux en France. Il convient tout d'abord d'insister sur le fait que l'existence de clivages identitaires et religieux importants est loin d'être une chose nouvelle en France. Les clivages entre catholiques et laïcs, en partie superposée aux conflits autour de la propriété et aux oppositions entre les mondes rural et paysan et les secteurs urbains et ouvriers, ont joué un rôle central au XIXe siècle et pendant une large partie du XXe siècle. Cette frontière intérieure entre croyants et non-croyants, y compris à l'intérieur des classes populaires, a longtemps compliqué encore un peu plus la constitution de coalitions politiques cohérentes sur le plan socio-économique. Si un système de clivage de type classiste a pu se mettre en place dans l'après-guerre, c'est en partie parce que ces clivages religieux et identitaires s'étaient estompés, et aussi parce que les défis posés par les guerres, la crise des années 1930 et le communisme, avaient imposé l'idée d'un plus grand interventionnisme sur le plan économique et social, et avaient donné aux socialistes et aux communistes la légitimité que les radicaux leur contestaient encore dans l'entre-deux-guerres. C'est ainsi que les affrontements socio-économiques au sujet du régime de propriété ont pu prendre le pas sur les questions de frontières et d'identité. Au cours des dernières décennies, des clivages identitaires et religieux d'un type nouveau se sont développés en France et dans de nombreux pays européens, en lien avec le développement de mouvements politiques anti-immigrés et en particulier de mouvements opposés à l'immigration d'origine extra-européenne et notamment arabo-musulmane. Si l'on examine tout d'abord l'évolution de la structure de la pratique religieuse en France, telle qu'elle est déclarée par les personnes interrogées dans les enquêtes post-électorales menées depuis 1967, on constate que la proportion de personnes se déclarant sans religion a beaucoup progressé. Elle est passée de 6% en 1967 à 36% en 2017. Voir graphique 14.14. Une majorité de l'électorat continue de se déclarer comme catholique, mais elle s'est fortement réduite, de 91% en 1967 à 55% en 2017. Autrement dit, la majorité catholique était autrefois écrasante, elle n'est plus que relative. Si l'on se limite aux électeurs âgés de moins de 50 ans, les personnes sans religion ont même dépassé les catholiques dès l'enquête de 2012, 44% contre 42%. Par ailleurs, les catholiques pratiquants, au sens où ils déclarent aller à l'église au moins une fois par mois, ont presque totalement disparu, à peine 6% en 2017. Les 49% restants déclarent avoir une identité catholique mais ne pratiquent pas ou peu. Outre la forte croissance de la population se déclarant sans religion, on assiste également entre 1967 et 2017 à un développement moins important mais toutefois significatif des pratiques religieuses non catholiques. En 1967, moins de 3% des personnes interrogées déclaraient une autre religion, principalement le protestantisme, environ 2%, le judaïsme, autour de 0,5%, et moins de 0,5% pour toutes les autres religions réunies, islam, bouddhisme, hindouisme, etc. Les électeurs musulmans représentaient toujours moins de 1% de l'électorat en 1988, quand ils commencèrent à être répertoriés séparément des autres religions dans les enquêtes post-électorales. Ils représentaient toujours moins de 2% de l'électorat en 1997, avant d'atteindre 3% lors des élections de 2002 et 2007, puis environ 5% de l'électorat en 2012 et 2017. Parmi ces électeurs, se déclarant de confession musulmane, la grande majorité des personnes concernées semblent avoir une pratique religieuse faible, de même d'ailleurs que parmi les catholiques. Précisons qu'il s'agit là de données portant sur les personnes inscrites sur les listes électorales, ce qui implique d'une part d'avoir la nationalité française, qui est généralement obtenue lors de la seconde génération, et d'autre part de s'inscrire sur les listes en question. Les données issues d'autres enquêtes suggère que le nombre total de personnes se considérant comme musulmanes représente à la fin des années 2010 environ 6-8% de la population résidant en France. On retrouve des niveaux comparables dans les autres pays ouest européens, en particulier au Royaume-Uni et en Allemagne. Il s'agit d'un niveau inférieur, mais pas incomparable à la proportion de musulmans en Inde, 10% au recensement de 1951, 14% au recensement de 2011. À la différence importante près que la pluralité religieuse hindou-musulman est présente en Inde depuis le XIIIe siècle, alors qu'elle n'est devenue une réalité qu'au cours des toutes dernières décennies en Europe occidentale. Par comparaison, la proportion de musulmans est infime en Pologne, en Hongrie ou encore aux États-Unis, moins de 1% de la population. Si l'on examine maintenant comment les clivages religieux se traduisent sur le plan électoral, deux faits principaux méritent d'être notés. Tout d'abord, si l'on nommait pour commencer la question des autres religions, on constate que le clivage entre électeurs catholiques et électeurs sans religion n'a jamais cessé de jouer un rôle extrêmement important sur le plan électoral et politique en France. C'était évidemment le cas sous la Troisième République, en particulier dans le cadre des élections de la période 1871-1910, étudiée par Siegfried, en reliant par exemple au niveau cantonal la fréquentation des écoles privées, la structure de la propriété terrienne et le vote pour les candidats catholiques. On retrouve un impact massif de la religion sur le vote dans les années 1960-1980. Seuls 10-20% des catholiques pratiquants votaient alors pour les partis de gauche, socialistes, communistes, radicaux, écologistes, contre 70-80% des électeurs sans religion votant pour ces mêmes partis, voire graphique 14.15. Les catholiques non pratiquants ont, quant à eux, toujours été dans une position politique intermédiaire entre ces deux groupes. Pour trouver des effets aussi massifs, avec des déterminants socio-économiques, il faut comparer, à la même époque, les 10% des électeurs les plus pauvres en patrimoine et les 1% des électeurs les plus riches en patrimoine. Or, tous les électeurs sans religion ne font pas partie du premier groupe, ni les catholiques pratiquants du second, tant s'en faut. Si l'on considère l'ensemble des catholiques, pratiquants et non pratiquants, leur propension à voter pour les partis de droite était, dans les années 1960-1980, d'environ 40 points plus élevée que celle des électeurs sans religion. Il s'agit d'un effet considérable et hautement significatif. Si l'on raisonne toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si l'on prend en compte les caractéristiques socio-économiques des électeurs catholiques, cet écart tombe à environ 30 points. Cela découle notamment du fait que les catholiques sont en moyenne plus âgés et disposent de revenus et surtout de patrimoine sensiblement plus importants que les électeurs sans religion. Il reste que la majeure partie de l'écart, environ les trois quarts, apparaît bien de nature politico-idéologique et non seulement socio-économique. Cet écart d'environ 30-40 points, après ou avant variable de contrôle, observé au cours de la période 1960-1980, s'est progressivement abaissé à 20-25 points dans les années 1990-2010. Cela reste toutefois un écart considérable, si l'on a en tête les écarts d'environ 10-20 points généralement associés aux variables socio-économiques et éducatives.